pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix.
La violence institutionnelle vient du fait que vous avez peur de perdre votre pouvoir et vos privilèges. L'heure des comptes a sonné. Nous ne sommes pas des enfants que l'on corrige, mais des adultes responsables qui réclamons liberté, justice sociale et climatique, démocratie et votre démission, Monsieur Macron. Je suis Michel, je suis journaliste, je suis sans papier, je suis pangolin, je suis la terre, je suis travailleur pauvre, je suis animal nuisible et je nous défends.
On aurait pu croire le mouvement social moribond, mais il n'en est rien. En attestent ces deux manifs des samedis 28 novembre et 5 décembre 2020. L'étincelle qui a fait déborder le vase, c'est une ratonnade de trop. Sur fond de débat autour de cette nouvelle loi scélérate, dite de sécurité globale, et qui a engendré des manifs surprenantes par le nombre de mécontents qu'elles ont rassemblés. Manifs surprenantes aussi par leur sociologie. Il y avait bien entendu une présence d'associations comme la Ligue des droits de l'homme ou ATTAC. Il y avait aussi bien sûr une présence syndicale, notamment Sud Solidaire, la Confédération Paysanne, FO, pas trop la CGT qui semblait étrangement absente, enfin en tout cas par chez moi c'était comme ça. Et dans ces manifs de samedi, on a aussi retrouvé quelques gilets jaunes et on aura aussi vu manifester des gens qu'on ne voit pas souvent, voire même jamais, et notamment des jeunes et en nombre. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à toi pour cette spéciale Radio Manif. Sécurité globale, halte au floutage de gueule. La rue a la parole pendant une heure dans ta radio.
Non aux lois liberticides et à la mise en cause des droits sociaux. Nous affrontons une crise sans précédent qui a une nouvelle fois révélé les profondes inégalités de notre société. Nous avons dépassé la surprise sanitaire et nous connaissons les drames qui se déroulent à l'hôpital comme dans la discrétion des appartements, puisque nous les vivons. La brutalité de cette situation ne masque pas les raisons de cette dégradation sociale accélérée, car le grand patronat profite de l'épidémie pour restructurer la production, licencier en masse et s'attaquer aux droits des travailleurs. L'augmentation de la précarité, les vagues de suppression d'emplois, accroissent la misère dans nos villes, nos campagnes, nos quartiers populaires. 1 million de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil de pauvreté depuis le déclenchement de la pandémie. Nous n'acceptons pas que des millions d'euros soient accordés à des grands groupes qui licencient par milliers tout en versant des dividendes en millions d'euros à leurs dirigeants et à leurs actionnaires, pendant que la situation de l'hôpital et de ses personnels continue de se dégrader. Nous sommes nombreux et nombreuses à constater que les profits explosent pour Amazon, la grande distribution et les laboratoires pharmaceutiques, au détriment de tout le tissu des petits commerces et de l'artisanat, qui risquent de disparaître purement et simplement. Le gouvernement maltraite les premiers de corvée, très majoritairement des femmes, qui risquent leur vie au quotidien, souvent dans le silence. Nous n'oublions pas que depuis des années, les gouvernements successifs ont œuvré au démantèlement du service de santé, de celui de l'éducation et de tous les autres services publics, dans une logique de rentabilité que les populations paient très cher aujourd'hui. Les mauvais coups se multiplient. La remise en cause des libertés et des statuts des personnels de l'université et de la recherche, la création d'un forfait de 18 euros aux urgences de l'hôpital, le vote du Sénat pour une retraite à 63 ans et 43 années de cotisation, et plus généralement la destruction de nos communs, environnement, sécurité sociale. 1984. Nous ne sommes pas dupes. Le gouvernement profite de cette crise pour imposer ses réformes libérales et s'attaquer à nos libertés avec ses lois autoritaires. La loi de sécurité globale, loi de sécurité globale, loi de sécurité globale. La loi de sécurité globale est l'instrument de pouvoir pour organiser son contrôle pernicieux contre toutes les aspirations démocratiques de la société civile. application récente de l'article 24 n'y change rien. En clair, et entre autres mesures, le déploiement massif des caméras mobiles et des drones, couplé aux caméras fixes déjà existantes, entraînerait une capacité de surveillance généralisée de l'espace public. Capacité de surveillance généralisée de l'espace public, ne laissant plus aucune place à l'anonymat essentiel au respect du droit à la vie privée et ne pouvant avoir qu'un effet coercitif sur la liberté d'expression et de manifestation. Avec l'état d'urgence, le gouvernement veut nous restreindre à l'isolement puisqu'il ne peut pas nous réduire au silence. Ce n'est pas le virus qui étouffe le mouvement social. C'est l'État qui instaure le couvre-feu et qui encourage les violences policières et le racisme institutionnel. C'est également la planète qui est affectée par ses choix politiques et ses conséquences dramatiques pour des millions de personnes. Nous sommes nombreux, nombreuses, à refuser de subir cette gestion calamiteuse de la crise sanitaire. L'abrogation de la loi est un impératif. Celles et ceux qui produisent les richesses ont leur mot à dire. Si la société est encore debout, c'est grâce à nous, à notre travail, pas aux parasites sociaux que sont les actionnaires et leurs suppôts. Nous refusons cette fuite en avant idéologique et autoritaire, facteur de désespérance, de confusion, de racisme et de danger pour la démocratie. Cela est inacceptable. Nous exigeons d'autres choix en rupture avec la logique capitaliste. Ces revendications et d'autres à discuter dans la fraternité la plus totale imposent que nous prenions des initiatives concrètes. Certaines ont déjà émergé, porteuses de capacités d'agir et de transformation sociale. En ce sens, nous appelons à regrouper toutes nos forces. Et ici comme ailleurs, nous devons nous mobiliser, débattre, nous organiser et jeter les bases d'action unitaires. Ouvriers, commerçants, artisans, paysans, jeunes et retraités, pour célébrer l'audace de l'espoir en responsabilité et en conscience. Nous invitons donc chacun à s'associer aux manifestations et mobilisations qui démarrent localement en cette période de construction d'une alternative pour l'espoir.
On est avec Yannick. Bah, t'as pas ton gilet jaune, Yannick, bonjour.
Oh, t'inquiète pas, je suis tout prêt.
Avec tout
bonjour,
le monde.
Bonjour à tous les auditeurs.
Toi, t'es un habitué du samedi, hein, depuis plus de deux ans maintenant.
Samedi.
Et là, t'es venu avec des photos. Donc, première photo, est-ce que je peux la décrire?
Tu peux la décrire.
C'est en face de la poste, hein, devant la grande poste. On voit de très gentils représentants des forces de l'ordre qui brandissent une matraque inoffensive. Et puis devant, on voit un gilet jaune en treillis qui est en train de danser de manière très menaçante.
Oui, tout à fait. Si t'appelles ça danser.
Ça ressemble à un pas de danse, non? En fait, il est en train de fuir, c'est ça?
Il fuit.
Puis t'as marqué une légende en haut, qui est le plus violent?
Bah,
là, il y a une autre photo que t'as sortie.
Le 17 novembre, donc.
Donc là, on voit plusieurs gilets jaunes de dos.
C'est des citoyens, quoi qu'on vienne dire. C'est des citoyens, même si on nous représente comme gilets jaunes. Moi, je m'aperçois que le plus violent, si tu regardes bien, c'est celui-là qui lance. La...
On voit des citoyens en jaune fluo de dos qui sont apparemment en train de courir. Et là, ça ressemble à une explosion de grenades lacrymogènes ou un truc
donc,
comme
je
ça.
Je fais partie de ces gens-là qui ont reçu des K4 dans les pieds. Et je n'ai pas oublié le degré de violence qui a été fait ici. Donc moi, j'oublie pas. C'est comme tout citoyen. Quand on se fait taper dessus gratuitement, on pardonne pas aux gens.
Ah ben non, c'est pas gratuit, Yannick. Tu sais que tu payes des impôts pour ça. Oui, pour te faire taper sur la gueule. C'est pas gratuit du tout. Non seulement tu te prends des grenades, mais en plus ça te coûte du pognon.
Donc tu t'aperçois qu'en fin de compte, le plus un des deux, eh ben, je suis désolé, c'est la force publique. Parce qu'on a envie de discuter concernant ce degré de violence qui a été fait depuis deux ans. On est un peu têtu, hein. Je dis pas rancunier, mais têtu. Quand on reçoit une claque, on la redonne pas. Par contre, on n'oublie pas. Au niveau des lois, il y a un problème, c'est que c'est toujours nos politiciens qui s'occupent des lois, puis jamais on demande aux citoyens de régler cette situation de loi. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent conscience. Moi, j'ai fait confiance à mon petit président, 140 citoyens pour discuter concernant les lois. Mais je suis tout à fait ouvert à ça, moi. Par contre, il y a un grand, grand nettoyage à faire dans notre chambre des députés, nos chambres européennes, et puis en commission des droits de l'homme, parce que là aussi, ça, il y a un sacré nettoyage à faire. Je suis un simple citoyen comme un autre qui a décidé de leur dire « c'est plus possible d'accepter ça ». Maintenant, on rentre chez les gens, on les gaze, on leur tape dessus et tout va bien. Mais c'est à longueur d'année qu'on a ça. Mais il y a une éthique à changer chez la force publique. Il va falloir remettre les rangs, refaire les rangs et puis les mettre droit. Et puis de tous ceux qui déconnent, les sanctionner. Moi, je suis désolé, il faut arriver un moment, il faut qu'on cesse de taper sur les gens gratuitement et volontairement.
Est-ce que tu es particulièrement indigné par cette histoire d'article 24, là, interdisant aux médias, ou à qui que ce soit d'ailleurs, de filmer des manifestations, et notamment des fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions?
Moi, je dis que si, heureusement que vous êtes là, parce qu'on a fait croire que les gens étaient violents, mais au bout du compte, les premiers qui sont les plus violents, c'est la force publique. Moi, je suis désolé, c'est la force publique. Moi, je l'ai vu pendant 2 ans, là. En tant que citoyen, on est mobilisé. Moi, je souhaiterais que les médias se dénoncent encore plus. La loi, en fin de compte, on essaie de mettre la loi pour le policier. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en tant que citoyen, t'as pas de loi pour te protéger. La force publique, mais je suis d'accord qu'ils ont un métier, ils ont un travail. Le citoyen qui a le droit de manifester, qui dit non, il n'est pas d'accord avec vous, comment ça se fait qu'il faut en arriver à se faire taper dessus pour devoir se justifier contre ça? Pourquoi il n'y a pas de commission concernant ça pour expliquer le problème dans les associations sont là. Pourquoi nos responsables politiques ne veulent pas faire le premier pas? Nous, on les attend, nous, parce qu'on a des choses à leur dire. Un petit peu plus de négatif que de positif, parce qu'on a reçu certains coups qu'on n'apprécierait pas. Mais là, maintenant, c'est une intégrité qu'on va chez le citoyen. On est prêt à prendre une vidéosurveillance pour fliquer les gens. Il arrive un moment, non, c'est pas possible. Les caméras internes qui peuvent servir pour une simple procédure, parce que tu as le droit de manifester, ce jour-là, on est capable de te mettre en procédure pour ça. Il arrive un moment, on marche sur la tête. Voilà. Il y a un grand nettoyage à la force publique à faire.
Il y a beaucoup de chômeurs. Et il faudrait peut-être penser à embaucher les gens. Mais on est qu'un jour, les jeunes vont se réveiller. Parce que là, ça devient grave. Il y en a même qui vont en psychiatrie pour des bêtises pareilles. Tout ça à cause des oligarques. C'est des gens qui pensent ce que tu dois faire. C'est des gens qui ne travaillent pas. Il n'y a que le travailleur qui sait comment on doit procéder. Et il faut arrêter. Il y a un jour, il faut dire stop. Parce que c'est bien beau, l'argent. Quand on joue au loto, on nous dit « l'argent est dangereux pour la santé hein ». Et pour la politique, on fait quoi? Pour la politique, on fait quoi? C'est pareil. Un jour, il faut qu'ils se réveillent, ces gens-là. Il faut que le pognon, il redescende à la source. Il faut que le citoyen, il ait son droit de parler, et son droit de s'exprimer. Les vidéos, on veut défendre les vidéos. Mais on a raison de défendre les vidéos. Parce que ça permet de nous défendre. Parce que le jour où on coupera ce lien-là, on sera plus crédible. Et là, on mangera davantage. Donc ça s'appelle de la dictature. Donc il faut tout arrêter. Maintenant, je crois que tout le peuple, il doit se réveiller. Aussi bien les jeunes que les anciens, tout ça. Maintenant, il faut qu'on soit tous dans la rue. Les commerçants, ils ont mangé pendant je ne sais pas combien de temps. Pour ceci, cela. Les restaurateurs, les bars, tout ça. C'est des gens, ils ont acheté ça pour se faire une retraite. Tous les mois, ils payent. Mais c'est qui va payer? La jeunesse? La jeunesse d'après? Alors moi, j'en appelle aux jeunes à se réveiller. Et là, il va être grand temps de se réveiller. Parce que sinon, ça va mal finir. Ça va très, très mal finir.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous lire ton panneau, s'il te plaît?
Oui. Baissez vos armes, on baissera nos téléphones.
C'est génial. Écoute, quand ils ont sorti leur truc, je me suis dit, si jamais chaque manifestant brandissait son téléphone, même sans filmer, bon genre, t'as 1000 manifestants, 1000 téléphones, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là?
Ce seront nos armes. Je suis donc Marie de l'association Amis Val d'Amboise pour l'accueil des mineurs migrants isolés. Et nous sommes là aussi pour défendre les exilés. Solidarité avec les exilés.
Qu'est-ce que vous faites, vous?
Présidente d'une association qui vient en aide aux mineurs migrants isolés. Donc on héberge, on s'occupe de leurs droits, de leur santé, de leur scolarité et quand ils sont majeurs, leur titre de séjour.
comme moi, vous avez vu ce qui s'est récemment passé place de la République, ce qui s'est passé avec ce producteur, Michel, qui s'est fait tabasser et traiter de sale nègre. Et en même temps, il y a cette loi sur la sécurité globale. Moi, je pense qu'il y a déjà un arsenal juridique présent pour protéger les policiers et qu'on n'a pas besoin de cette loi qui fait juste plaisir aux syndicats d'extrême droite de la police. Je suis bien placée pour en parler parce que je suis la fille d'un des députés qui a voté pour la loi.
Ça va être sympa le réveillon de Noël.
Ouais, voilà.
On va bien s'amuser. On pensera à toi.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors là, il y a une belle volée de panneaux.
Non à la dictature en marche. Actuellement, on subit une dictature et malheureusement, il faut qu'on fasse quelque chose. Pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, peuple, réveillez-vous.
Est-ce qu'on peut lire celui-ci aussi de panneau sur la collègue ?
Donc non à la violence policière. Le gouvernement corrompu.
Et le collègue, là, il y a quelque chose dans le dos ?
Nous sommes le peuple.
Avec des guillemets entre peuple, oui, hein, quand
parce
même.
Parce que le peuple, voilà, il est temps qu'il se réveille. Je fais bien la différence entre le peuple et la dictature. Hein. Donc si on se bat aujourd'hui, c'est pour le peuple, contre la dictature. Voilà. On y est là avec le cœur, le corps et l'esprit, et puis tous ensemble.
Et on en fait 40 et même 70 km pour venir ici.
Et nous sommes là justement parce qu'il en a marre et puis qu'il est temps d'agir.
Franchement, Marie, quand même, vous faites un petit peu du complotisme, vous avez mauvais esprit, dictature, l'URSS, Staline, Hitler, tout ça. Nous, quand même, on est le pays des droits de l'homme, les Lumières, bleu, blanc, rouge, cocorico, tout ça. Vous exagérez un petit peu, quand même. Hein.
Alors, moi, je remplace les trois mots, malheureusement, que nos grands-parents se sont battus pour obtenir. Hein. Donc, avant, c'était liberté, égalité, fraternité. Maintenant, c'est travail, consomme et crève. Donc, voilà. Les libertés, on les a perdues. On est contre ces lois, justement, liberticides. Et il faut qu'on les récupère.
Vous faites souvent des manifestations, Marie ?
Non, c'est ma première manifestation.
Depuis
un petit moment, j'en ai fait une quand j'étais un peu plus jeune. Et là, ça devient vraiment obligatoire pour chacun de se défendre.
Donc vous êtes sortie du bois ?
Je suis sortie de ma campagne du bois, tout à fait. Tout à fait.
Bonjour, Marina.
Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de Staline ? De l'URSS.
Ah oui, dictature, goulag, pas bien.
Justement. Donc, devant vous, c'est une ex-soviétique. Je suis russe, monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est le goulag ? Je n'ai pas visité. Par contre, mes copines travaillaient dans les camps de travail. Parce que ma ville était entourée de camps de travail.
C'est quoi votre ville d'origine, Marina ?
Katerinbourg. Ma grand-tante avait des pétoches dans les années 90 de tous les étrangers. Et pourtant, ma grand-tante était docteur en sciences. Elle allait à l'étranger en France, en Angleterre. Mais tellement, on avait peur à cette époque-là, et dans les années 40, 50, 60, de raconter une moindre anecdote sur l'élite. Dire vraiment deux, trois mots, on pouvait finir en goulag. Donc, lorsque maintenant je vis ce qui se passe en France, je me dis, aïe, mais c'est pire qu'à l'Union soviétique, que moi j'ai connue dans les années 70-80. Vous vous rendez compte ? Mon Dieu, mais j'ai vraiment peur. Parce que moi j'ai connu la dictature communiste en Union soviétique. Pour mon pays d'adoption, je ne veux pas la même chose. Vous comprenez ? Or que les Français, il y en a encore la majorité qui n'est pas consciente du tout. Et lorsqu'ils me voient sans masque, ils me disent « Ah, mettez votre masque !» Mais vous allez... Mais attendez, mais je ne suis pas malade. Et surtout, je ne veux pas que quelqu'un se prenne pour un gendarme ici. Mais on est tous devenus... Mais c'est dingue. Et ça me rappelle absolument la même situation qu'en Russie. N'importe qui pouvait nous faire des réflexions dans la rue comme ça. Et là, je dis « Aïe !» J'ai l'impression de vivre 30 ans en arrière. C'est horrible. Mais les gens ne sont pas conscients. Il y en a peu qui sont conscients, qui sont là. Voyez, et tout ce qui se passe avec cette violence policière, c'est vraiment ahurissant.
Retrait total, sécurité globale.
Bonjour Renaud.
Bonjour.
Ton panneau est hilarant. En fait, c'est une vraie fausse attestation de déplacement. Ça, on n'a que trois options. Oui. Donc, quelle case peut-on cocher ?
Alors, latter la gueule à Manu, faire la révolution ou mettre ta tête dans ton cul pour ne rien voir. Ensuite, il y a marqué à vous de choisir. Et puis, un petit coquelicot en référence un peu au printemps 1848 Et puis pour faire un petit peu aussi le contraste avec la violence un petit peu du message.
Voilà, il y a trois options. Hein. Latter la gueule à Manu, faire la révolution, mettre ta tête dans ton cul pour ne rien voir. Qu'est-ce que tu choisis, toi?
Bah, j'ai peur du noir. Les deux premières, potentiellement, ça me va, quoi. Je suis pas très regardant.
Qu'est-ce que les gens sont créatifs, hein. C'est drôle, des fois quand ça se tend et que la situation est sinistre, ça déclenche. Là, je regarde ça depuis 2 ans et je me fais la réflexion que les gens sont vachement créatifs et que l'humour, malgré la sinistrose, peut-être à cause de la sinistrose, redevient une arme.
Bah, c'est une manière de toucher les gens, je pense, parce qu'on voit bien qu'on a peur. Quoi.
Comme moi, il y a une dame qui prend ton truc en photo, là.
quand on a peur, en fait, je pense qu'il y a plus de déni, finalement, que de révolte. Il faut réveiller ça, je pense. C'est, l'humour, c'est une manière d'alerter, c'est une manière de choquer aussi. C'est une des dernières armes qui nous reste, quoi.
Alors, un autre truc important, c'est que tu invoques l'histoire, là. T'as parlé de 48.
1848. Printemps européen de 1848, ouais.
Connaître son histoire, voilà, savoir d'où on vient pour savoir où on est et éventuellement où on veut pas aller, ça aussi, c'est une arme.
On voit les mécanismes qui se répètent, on voit la politique, c'est un long fil. Voilà, entre 1848 et aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. La lutte des classes, elle est toujours là. Je veux dire, ça a été le réveil de la lutte des classes. Ça a été Karl Marx à l'époque, Proudhon, d'autres. C'est quelque chose qui a éveillé les consciences, en fait. Simplement, et puis qui a apporté, mine de rien, bah, des droits aux salariés, qui a apporté des libertés individuelles et collectives, d'ailleurs, parce que la liberté individuelle, il n'y a pas que ça. C'est un peu en hommage à ça, et c'est ça, c'est le printemps, quoi.
Tu manifestes souvent ?
Assez souvent, pas tout le temps, parce que des fois, je travaille déjà, et puis voilà, on peut pas forcément perdre une journée de salaire. Et puis des fois, bah aussi j'ai autre chose à faire simplement, quand j'ai une vie. Mais quand je peux, en tout cas, je suis là plusieurs fois dans l'année, une dizaine de fois dans cette année moins, parce qu'il y en a eu moins. Mais en général, une dizaine de fois dans l'année, j'ai fait un peu les gilets jaunes, j'ai fait la réforme. Voilà, j'ai fait le 1er mai, en général, je suis là. C'est bien aujourd'hui, il y a un peu de monde. Ça fait du bien parce que les dernières manifs que j'ai faites, il n'y avait pas trop de monde. Voilà, là, cet été, il y a eu 2-3 manifs où il n'y avait pas grand monde. C'est bien, il faut, voilà, faut que les gens se réveillent un petit peu. Parce qu'on court à la catastrophe, en fait, simplement, je pense.
On voit aujourd'hui des gens qu'on n'a pas vus souvent, voire même jamais en manif. Hein.
Bien sûr, oui, on voit des
gens. Qu'est-ce qui les a fait sortir? Tu crois que c'est le fameux article 24 ou c'est un truc plus global?
C'est la sécurité globale, c'est dans le titre. C'est global, c'est une impression, je pense, d'être surveillé, d'être utilisé, que nos libertés se contraignent. On est obligé de signer l'attestation, nous-mêmes, de nous autoriser à aller sortir. Mais ça n'existe pas, ça, en vrai, je veux dire.
Les auto-Ausweis.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, ça se trouve, bientôt, on se déportera tout seul. Hein.
On compte sur le fait que les gens d'eux-mêmes s'enferment chez eux, je veux dire, sans jamais leur porter d'arguments qui valent un copec. Voilà, je pense que les gens, ils en ont un petit peu marre. J'espère que ça va se réveiller un jour. Voilà, on a l'impression que ça vient peut-être, et ça serait bien. Ça serait bien, quoi.
Chloé, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux me lire le panneau en 2 volets, si j'ose dire, parce qu'il y a 2 individus avec chacun un bout de la phrase. Donc ça commence par...
Les images frappent.
Et le deuxième panneau?
Mais moins que la police.
Adrien, bonjour.
Ce que je veux dire, c'est qu'on en a gros. On en a vraiment gros, quoi. Et ça fait 2 fois dans la même semaine qu'on voit que bah, filmer les flics, ça sert à quelque chose. Ils retirent pas leur loi pour le moment, donc bah, on marche. C'est global et puis ça fait longtemps que c'est inquiétant en fait, la manière dont le maintien de l'ordre en France est géré. Et je pense qu'on peut dire merci déjà en premier lieu à Sarkozy, faut pas l'oublier. Il a fait en sorte que les politiques qui se mettent en place aujourd'hui, c'est lui qui a semé la graine. Voilà.
Nina, bonjour.
Bonjour.
C'est pas mal un panneau en 2 volets. Pour que ça ait du sens, faut que vous restiez ensemble, quoi.
Oui, il faut réfléchir à l'ordre de la phrase.
Qu'est-ce qui t'a fait sortir dans la rue aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu sors régulièrement ou...
Non, je sors régulièrement, mais c'est vrai que là, on habite à 1 heure d'ici. On n'aurait pas fait forcément le déplacement à chaque fois. Là, maintenant, on le fait systématiquement. Moi, je sais que je suis sur Paris aussi et... C'est toutes les semaines en fait, que ce soit depuis les gilets jaunes, depuis la réforme des retraites. Nous, on est aussi militantes véganes. Donc voilà, c'est aussi tout ce qui est intersectionnalité qui est important pour nous. Convergence des luttes, chouette manifestation aujourd'hui.
Mais plein de visages que moi, je vois pas souvent, voire même jamais.
Oui, complètement. On en a gros. Non, on lâchera pas en fait. On lâchera pas.
Henri-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux me lire ce qui a marqué dans le dos du copain là ?
Volontiers. La violence institutionnelle vient du fait que vous avez peur de perdre votre pouvoir et vos privilèges. L'heure des comptes a sonné. Nous ne sommes pas des enfants que l'on corrige, mais des adultes responsables qui réclamons liberté, justice sociale et climatique. Démocratie et votre démission, monsieur Macron et ce gouvernement qu'on supporte plus, vraiment.
Et là, le copain a un supplément de panneau.
Alors mon copain, il dit « Je suis Michel, je suis journaliste, je suis sans papier, je suis pangolin, je suis la terre, je suis travailleur pauvre, je suis animal nuisible et je nous défends. »
Michel, bonjour.
Bonjour, Michel, c'est pas moi, moi je suis Philippe.
Ah oui,
Michel, c'est par rapport à ce qui s'est passé, producteur de musique à
non,
Paris.
Heureusement que je t'ai pas appelé pangolin, bonjour. Hein.
Ouais, t'aurais pu aussi. Mais je suis artisan, je suis élagueur, grimpeur élagueur. On arrive à travailler quand même malgré tout, mais je suis aussi toutes ces personnes.
Tu manifestes souvent toi ?
Oui, avec les gilets jaunes, pour le climat, contre ces lois liberticides, dès qu'à l'occasion, et malheureusement il y en a beaucoup, beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai voulu un peu assembler contre cette loi qu'ils veulent nous mettre, mais en même temps je voulais pas non plus revendiquer que ça et... Je pensais concentrer toutes les luttes qu'on pouvait aujourd'hui revendiquer.
Je me demande si je vais pas me faire un t-shirt « Je suis pangolin ».
C'est pas mal, hein ?
Ouais, c'est génial.
J'adore.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonjour Béatrice.
Bonjour, je suis assistante sociale sur un secteur. J'accompagne la population au plus près de leur quotidien. Voilà.
Les gens sont remontés, il y a plein de jeunes. Hein.
Ouais, c'est super intéressant ce type de manif parce que depuis la semaine dernière, on se rend compte que ces questions sociétales-là, elles sont vraiment portées par la jeunesse. C'est des jeunes aussi qu'on va voir dans les mouvements féministes aujourd'hui ou dans les rassemblements contre les discriminations. Et moi, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant ce qu'on voit là aujourd'hui.
Décidément, quelle histoire à suspense. On croyait le mouvement social moribond avec la Covid. Et la semaine dernière, j'étais vraiment très, très surpris de voir des gens en manif qu'on voit pas souvent ou qu'on voyait jamais. Et puis effectivement, j'ai l'impression que la jeunesse, des fois il y a des trucs qui lui passent au-dessus de la tête comme la retraite, mais alors il y a une partie des jeunes qui aiment pas les histoires de racisme, de ratonnade.
C'est quand même passé des choses pendant le confinement, il y a eu Black Lives Matter. Aujourd'hui, il y a quand même cette loi dégueulasse sur le séparatisme qui est votée. On s'attaque clairement à une population. Les jeunes, ils sont conscients aussi que il y a des choses pour lesquelles ils doivent sortir, ils doivent être dans la rue. Et ces questions d'égalité de droit, du fait que les gens ont le droit d'être ce qu'ils sont, sans pour autant être taxés du fait de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur orientation sexuelle ou pas d'ailleurs, je pense que les jeunes sur ces questions-là, il y a un vent réel de volonté de changement et d'évolution sociale. Et moi je pense que c'est très très sain. Et ça passe quand même par une vision d'une société qui reste une société solidaire, parce qu'en fait le fond quand même, une forme de refus d'un système un peu capitaliste qui pousse les gens les uns contre les autres, qui a besoin pour pouvoir exister, d'écraser une partie de la population. Et là quand les jeunes y sortent pour dire égalité pour tous, tout le monde a le droit de vivre et s'exprimer, c'est quand même un message fort pour dire aussi à une certaine forme du capitalisme, allez vous faire foutre, hein, pour être clair.
En tant qu'assistante sociale, qu'est-ce que tu penses des conditions de travail aujourd'hui, du boulot qu'on te fait faire ?
Il faut le dire, hein, le service social il s'est fortement transformé sur les dernières années. À l'aune de la mise en place d'un espèce de millefeuille de loi, on demande de moins en moins aux travailleurs sociaux de faire du travail social pur et dur, et de plus en plus de faire de la mise en place de dispositifs. Le travail social, c'est quand même accompagner des gens à l'autonomie, en partant de ce qu'ils sont, de cheminer avec eux pour qu'ils puissent être le mieux possible dans une société et qu'ils y trouvent leur place. Or là, on nous demande de plus en plus de regarder les gens, puis de voir dans quel dispositif ils peuvent rentrer. Donc on n'est plus vraiment dans un accompagnement, on est plus dans une offre de service. Et ça, c'est une modification profonde du service social et du travail social aujourd'hui, qui doit nous interroger aussi sur le type de société qu'on veut mettre en place. Est-ce que c'est une société où tout le monde peut trouver sa place, là encore, puisse être ce qu'il est, avec des petits aménagements, ou est-ce qu'il faut qu'il rentre dans des cases pour pouvoir accéder à la société ? Deux angles d'attaque différents qui interrogent vraiment le type de société qu'on veut. Quoi. Le premier confinement, les 15 premiers jours en particulier, ça a été un méga branle-bas de combat pour savoir comment on allait pouvoir continuer à accompagner les familles qui en avaient besoin, les ménages, les personnes seules, s'assurer que tout le monde avait ce qu'il fallait, entre autres pour manger. On a bossé comme des dingues pour essayer de maintenir le service public avec les moyens qu'on avait. Dès que j'ai pu sortir, les premières choses que j'ai fait, c'est des visites à domicile pour aller voir les gens. Parce que par téléphone et à distance, faire du service social, c'est toujours compliqué. Mais on a fait du mieux qu'on a pu. Et vraiment, ça n'a pas été une période de repos loin de là. Parce que du matin au soir, on était au téléphone et on a bossé comme des dingues. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la protection de l'enfance, les violences faites aux femmes, etc. Et que ça n'a pas été une période des plus simples pour les gens qui étaient concernés. Et pour les services sociaux qui étaient là aussi pour accompagner les gens, c'était pas la période la plus simple pour articuler les choses. Donc ça a été un confinement qui, je trouve, a été extrêmement fatigant, énormément frustrant parce que le gouvernement, lui, il n'a pas arrêté. Par exemple, il a voté et il a mis en place, continué la casse du service public en continuant à mettre en place les décrets de la loi de transformation de la fonction publique. On était tellement pris dans nos quotidiens professionnels ou dans cette situation de stupéfaction qui était liée au confinement qu'on n'a pas eu aussi les outillages nécessaires pour pouvoir continuer la lutte sur ces questions-là. Or, il y a quand même pas mal de choses qui entraînent des reculs importants pour les travailleurs et particulièrement pour les fonctionnaires aujourd'hui et qui se sont passés cet été et préparés pendant toute la période de confinement par le gouvernement.
Je crois que vous n'avez pas fini, hélas. J'entendais l'autre jour à la radio, je crois que c'est la dame qui est responsable à l'échelle nationale du Secours catholique, me semble-t-il, mais je pense que les gens des Restos du Cœur ou du Secours Pop pourraient raconter exactement la même chose. C'est qu'il y a une flambée de pauvreté avec tous ces gens qui se font lourder de leur boulot, qui le perdent, Covid, plus crise. Et ce que racontait cette dame était tout à fait effrayant. Elle disait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait jamais vu une flambée de pauvreté aussi subite et aussi violente. Toi, c'est ce que tu constates aussi sur le terrain ?
Oui, je pense qu'il y a une partie de la population qui était limite, qui survivait dans un système grâce à des emplois plus ou moins précaires, des CDD, de l'intérim, etc., qui aujourd'hui ont du mal à retrouver du boulot de manière très régulière, qui vont faire 15 jours par-ci, 3 semaines par-là, et qui vont se retrouver avec des salaires tronqués, sans obligatoirement des compléments de Pôle emploi ou autre. Et ces gens-là, qui étaient très limites, ils ont plongé avec la période du Covid. Ils ont pensé se relever un petit peu en septembre, juillet, août, septembre, c'est un tout petit peu reparti. Et le deuxième confinement, là, ça les rend exsangues, quoi. Et puis on peut se le dire, la question de la jeunesse aujourd'hui, des moins de 25 ans pour être très large, elle se pose fortement puisque ces jeunes-là, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir droit aux minima sociaux classiques parce que le RSA leur est pas accessible, sauf si ils ont un enfant. Mais c'est peut-être pas le projet de tout le monde, j'espère, d'avoir un enfant avant 25 ans pour pouvoir toucher des prestations. Donc on voit bien là une paupérisation, une jeunesse qui est en extrême précarité. Quand ces jeunes-là, ils partent aussi mal, on peut s'interroger, s'inquiéter de ce qui va se passer dans les années à venir pour eux, quoi. Quand on part avec des bagages très très fragiles, financièrement là en l'occurrence, c'est vrai que c'est compliqué après de construire une vie stable. Et on voit une paupérisation d'une population et on voit une population arriver qui jusqu'à présent n'était pas obligatoirement la population qu'on voyait tout le temps. Elle pouvait venir de temps en temps, mais là on les voit massivement arriver avec des situations souvent très dégradées, quoi.
Bon, et toi, tu tiens la marée ?
On continue. Le service public, quand on rentre en tant que travailleur social, particulièrement travailleur social du service public, en secteur, etc., je pense qu'on a plein de valeurs, d'accompagnement, de soutien des populations. Ouais, on tient. Puis d'un point de vue syndical, aujourd'hui, il y a tellement à faire qu'on ne peut pas se permettre de lâcher prise.
Le non-1er mai 2020, on s'en souviendra ou pas ?
Je ne sais pas comment on va se sortir d'un point de vue des collectifs de cette longue période d'impossibilité de pouvoir penser collectivement, se rassembler collectivement et porter des messages collectifs. C'est pour ça que de voir ces deux manifestations, celle de la semaine dernière qui était quand même assez massive pour une période où on doit maintenir les distanciations sociales, porter le masque, etc., etc. Et celle-ci aujourd'hui, c'est quand même un message d'espoir. Moi, c'est vrai que ça m'interroge la façon dont on peut continuer. On sait bien que ce travail collectif, il est fragile et que le fait là d'avoir pas pu militer ensemble et avoir des rassemblements ensemble pendant un certain temps, ça pouvait être un signal et un message négatif en fait pour le futur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même le signe que les gens ont encore envie, qu'il y a encore un peu d'espoir. Puis il y a aussi beaucoup de révoltes qui est encore présente.
Et puis des gens qui n'avaient pas trop envie jusque-là, qui maintenant ont envie. Voilà. Enfin, la semaine dernière, j'ai croisé des gens qui n'avaient pas manifesté depuis 40 ans.
On sent un renouvellement, quoi. On parlait de la jeunesse tout à l'heure. Il y a une certaine partie des copains, on sait bien, dans les manifs, il y a beaucoup de personnes âgées, etc., qui sont moins là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui s'autorisent à venir et qui se sentent hyper concernés. Il se passe peut-être quelque chose là. Déjà depuis les manifs féministes de l'année dernière, on se dit qu'il se passe peut-être quelque chose, parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui et qui est quand même une modification intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'accord de A à Z pour pouvoir aller dans la rue et se battre sur un sujet. Et les mouvements féministes, c'est ça qui nous montre, c'est qu'on peut manifester ensemble. On peut avoir des débats qui continuent sur plein de questions, mais ça ne nous empêche pas à certains moments d'être en capacité de nous rassembler et de se battre sur les questions qui sont les questions essentielles. C'est peut-être ça qui se passe aujourd'hui, hein. C'est qu'il y a des gens qui sont en capacité aujourd'hui à nouveau de descendre en se disant « Oui, on signerait peut-être pas sur la totalité de A à Z du projet politique de X et Y, mais par contre, sur ce sujet-là, on est en capacité de se rassembler et de dépasser plein de choses pour y aller. » Et ça, je trouve ça plutôt intéressant.
Ce que tu dis là me fait aussi penser, moi, au début des Gilets jaunes, je me suis retrouvé à faire des manifs avec des gens, je pensais pas que je manifesterais un jour avec eux, quoi. Et en fait, j'en suis très content, parce que depuis le temps que nous autres, là, on glose sur l'entre-soi...
Oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que cette question des Gilets jaunes, elle nous a poussés tous dans nos retranchements, interroger les uns les autres. Alors, on n'est pas tous d'accord sur l'analyse qu'on a en faire. Moi, dans mon syndicat, je pense que j'ai une posture qui est peut-être pas celle de la majorité. Le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un formidable moteur qui a permis quand même d'amener plein de sujets sur le devant de la scène, de remettre en place, en avant aussi, la question de la précarité, qui était quand même quelque chose dont on parlait, mais dont on parlait plus. C'est vrai que les gros mouvements comme le DAL, comme les mouvements de chômeurs, etc., ils étaient très très présents dans les années 90. Et puis il y avait eu un recul depuis le milieu des années 2000. Et là, on voit bien qu'il y a eu une reprise de tout ça, avec les Gilets jaunes. Ces questions-là, elles sont redevenues prégnantes. Ces populations dont on parle très peu, ou plutôt dont on parle, mais qui ne s'expriment pas beaucoup, là, elles ont pu s'exprimer. Moi, je trouve que c'était super intéressant. Ça a aussi percuté tous les corps intermédiaires qui sont censés être porteurs de la parole de la société. Et je trouve que c'est pas si mal que ça en réalité.
Retrait total, sécurité globale. Retrait total,
sécurité globale. Retrait total.
Les violences policières, on n'en veut pas. La reconnaissance faciale, on n'en veut pas. Les drones, on n'en veut pas. Les polices privées, on n'en veut pas. Les policiers municipaux surarmés, on n'en veut pas. Le droit de filmer, on veut le conserver. Retrait total, sécurité globale. Retrait total.
Salut Hugues.
Salut.
C'est pas la première fois qu'on se parle. La première fois, c'était il y a, je sais pas, au moins plus de 10 ans. Ouais. À l'époque, c'était Sarkozy. On s'était rencontrés parce que, en tant que comédien, t'étais venu avec d'autres comparses et ta roulotte faire une espèce de caravane place Jean Jaurès au centre de la ville de Tours, ouais, pour prévenir et alerter les gens contre les lois LOPSI, hein, loi d'observation, je sais pas quoi, programmation de la sécurité
intérieure. Oh, la loi LOPSI, c'était un grand fourre-tout sur plein de trucs. Et entre autres, il y avait l'anti-cabanisation, c'est-à-dire de resserrer les lois qui ne permettaient plus de foutre une cabane n'importe comment sur un terrain, et notamment pas des caravanes non plus. Mais dans cette loi LOPSI, il y avait aussi des trucs sur la question d'agrandissement de liberté d'intervention de la police d'ailleurs. Donc on est un peu dans le même, voilà, dans le même schéma, ça continue. Et donc à l'époque, on avait foutu quelques caravanes et notre roulotte sur la place de la mairie.
Vous, vous êtes comédien. Il vous arrive aussi de vous déplacer en roulotte et de camper de manière...
Non, j'ai habité pendant 30 ans dans une roulotte.
C'était... C'est typiquement un habitat précaire, immobile et nomade et tout ce que le pouvoir adore, quoi.
Ouais, je me rends compte que c'est en tout cas une forme de liberté réelle, parce que la façon de réfléchir quand on habite dans une roulotte, c'est-à-dire avec beaucoup moins de produits de consommation autour de soi, puisque déjà, il n'y a pas l'espace pour ça.
Tu me disais, là, tu es au cœur d'une procédure judiciaire.
Ouais, en fait, l'année dernière, il y a un an, jour pour jour, pratiquement, j'ai été interpellé par 3 agents, policiers municipaux, dont un qui était très énervé.
Qu'est-ce que tu as encore fait ?
J'étais arrêté à un feu rouge en vélo, mais au lieu de m'arrêter devant le feu rouge, j'étais arrêté après le feu rouge. Et du coup, les flics sont passés devant moi en brûlant le feu rouge, parce qu'ils étaient en intervention, eux. Et en passant, le gars m'a dit, alors le feu rouge ? Et moi, j'ai dit, et vous ?
C'est malin.
Ouais. Mais c'était plutôt cocasse, c'était pas méchant. Et sauf que le gars l'a mal pris. Et il m'a insulté.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Je peux pas encore en parler parce qu'il y a procès. Ah oui. Et du coup, il n'est pas forcément coupable. Il est, pour le moment, il est innocent.
Okay.
Et du coup, je lui ai dit, bah là, vous m'insultez. Et puis le gars, ça lui a pas plu du tout. Et ils sont venus vers moi et ils m'ont vraiment attrapé physiquement. Moi, j'étais sur mon vélo, vraiment très lourdement, quoi. Et puis le gars a essayé de me tordre le bras. Il m'a fait très très mal. J'ai encore mal aujourd'hui. Et donc, à la suite de ça, moi, j'ai porté plainte. Et écrit aussi au directeur de la police municipale et à la mairie pour ça. Et en fait, j'ai pas entendu parler de ça pendant très longtemps. Du coup, j'étais un peu surpris que personne de la mairie, en tout cas, revienne vers moi parce que c'était quand même assez gros. Mais en fait, il y a eu enquête. Et notamment, il y avait eu des vidéos.
C'est à cause de toi, en fait, qu'ils ont passé l'article 24.
Il y avait... Non, c'était assez intéressant parce que, en fait, les policiers eux-mêmes, ils avaient actionné leur vidéo de poitrine. Mais il paraît que leur vidéo n'était pas chargée. Du coup, ils n'ont pas pris. C'est dommage.
C'est pas de bol.
Par contre, il y avait une vidéo de ville qui a filmé en intermittence la scène et ce qui a permis vraiment, au moment de l'enquête préliminaire, de constater que mes dires étaient plus, se rapprochaient plus de la réalité que les leurs. En tout cas, c'est intéressant aussi parce que quand j'étais à terre et que le mec m'avait fait tomber, en continuant de me faire mal au bras, il y a quelqu'un qui est venu avec un appareil photo pour filmer. Et le gars, du coup, m'a lâché un moment pour la faire partir. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu me relever. Et puis revenir au calme avec les gars, parce que moi je leur demandais de revenir au calme en fait. Donc là après j'ai présenté mes papiers, tout ça, on a fini l'histoire. Et en fait c'est intéressant parce que si le gars il était resté continuer à m'agripper au sol, peut-être qu'il m'aurait fait vraiment encore plus mal et que lui il serait retrouvé en prison en fait. Donc finalement la vidéo elle m'a protégé, mais elle a protégé le flic aussi, parce que lui finalement aujourd'hui il est quand même incriminé parce qu'il a été entendu par ses supérieurs et par le juge d'enquête et par l'enquêteur. Et bon, il risque quand même assez gros, hein, parce qu'il était vraiment en tort. Enfin, en tout cas, il apparaît à être en tort.
Bah, c'est pas tant le problème qu'il était en tort, c'est qu'il était aussi filmé.
C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que, si tu veux, le fait qu'un citoyen ait filmé, ça m'a protégé, mais ça le protège lui aussi. Parce qu'en fait, un policier qui est entré dans une situation de brutalité, et là, moi, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, au gars. Et quelque part, il y a quelque chose de complètement irrationnel par le fait que tout d'un coup, il devienne violent. Je pense pas que ce soit un gars méchant ou quoi, tu vois. C'est qu'il y a quelque chose qui se met en place et que la plupart des gens qui sont victimes de brutalité policière retraduisent de la même façon. C'est-à-dire, en général, il y a une situation un peu litigieuse, il y a un refus de présenter sa pièce d'identité, ce qui était mon cas aussi, parce que t'as pas envie de présenter à tes papiers à un gars avant que soit discuté le problème. Et ensuite, il y a refus d'obtempérer, et puis les gars, en général, les flics, ils portent plainte contre injures, et puis ça se termine là, et bah, y a des gars qui perdent leur vie à cause de ça, en fait. Tout simplement. Sur une action petite, en fait, sur un problème qui est, au départ, la réaction...
Enculé, Macron ! Enculé !
Qui est, au départ, la réaction de la police ou du policier, elle est pas du tout en adéquation avec le problème ou avec le danger de la situation, si tu veux. Et c'est ça le problème qui fait qu'après, il y a un gars qui perd une main, qui se casse le bras, qui a tapé à la tête et des choses comme ça, tu vois. Donc, la question qui se pose aujourd'hui avec la manif sur la démocratisation du film, en fait, ça protège tout le monde, quoi.
Pour en revenir à ton cas personnel, il va y avoir une audience, un procès.
Il y a un procès, ouais, qui a lieu le 3 décembre à 13h30 au Palais de Justice.
Ça surpris que ça rebondisse.
Ouais, je m'y attendais pas trop quand même. Je savais pas comment ça se passait. Après, c'est très intéressant puisque j'ai reçu le dossier de préparation du procès. Du coup, tu vois les dépositions des différents policiers. Tu vois dans quelle mesure ils sont de bonne foi, mauvaise foi. Il y a des trucs qui sont des mensonges grossiers, par exemple, mais qui sont infirmés par les vidéos. Du coup, les gars, tu te rends compte aussi de la position qu'ils prennent, en fait. Et que s'il n'y avait pas eu cette vidéo, tu vois, c'était ma parole contre des gens qui ont une parole à sermenter, qui quand même prennent le droit de mentir. Et ça, c'est quand même un énorme truc. Donc j'espère que le procès sera l'occasion d'en parler. Après, c'est un procès huis clos, puisqu'en ce moment, c'est mesures sanitaires. Mais il y a quand même la presse qui a le droit de venir. Et puis moi, du coup, j'en ai profité pour provoquer la constitution d'une commission citoyenne autour de du dérapage de la violence entre citoyens et policiers, parce que les policiers s'en plaignent et les citoyens s'en plaignent. Et donc moi, je me suis dit, c'est très difficile de mener une action au niveau national. Par contre, au niveau de la mairie, c'est possible parce que c'est la police municipale et que donc, en fait, on a quand même la main sur leur direction et on a les élus aussi qui sont là. Et du coup, moi, j'appelle à faire ça. Et j'aimerais qu'il y ait aussi des policiers qui en fassent partie. De toute façon, à ce qu'on commence à réfléchir à comment on peut rentrer dans une pratique policière qui soit une politique de dialogue et pas une politique de rapport de force. Je pense qu'il y a tout à faire, en fait.
Et en quoi ça consiste, une commission citoyenne ? Il y a une assemblée, les gens viennent et débattent.
Alors, moi, j'ai donné rendez-vous à 13h30 jeudi devant le palais de justice pour que ce soit le premier rendez-vous, qu'on débatte un petit peu entre nous et qu'on se donne un rendez-vous. Et je pense que la première chose à faire, ce serait de prendre un rendez-vous avec l'élu, déjà, pour en discuter. Et après, moi, je pense qu'il y a des membres d'associations qui sont concernés par ça. Bon, par exemple, dans mon cas, il y a la CAT, c'est-à-dire l'association des chrétiens contre la torture, qui ont fait beaucoup de choses sur les violences policières. Et il y a le MAN, Mouvement d'Action Non-Violente, qui sera aussi présent. Donc ça, c'est des gens qui ont déjà l'habitude de travailler sur le sujet. Pour moi, une commission citoyenne, c'est des gens d'une ville qui disent, nous, on prend la ville comme un territoire pilote d'expérimentation et on essaie de faire autre chose. Alors moi, j'en ai parlé déjà avec l'élu, et l'élu, lui, il a ça quelque part dans la tête. Il voudrait transformer la police municipale en police de proximité, parce qu'effectivement, depuis l'abandon de la police de proximité sous Sarkozy il y a une vingtaine d'années, il y a vraiment une grosse montée de violence chez la police. Mais la montée de la violence chez la police n'est pas seulement le fait des policiers, mais aussi de leur hiérarchie, c'est-à-dire de l'impunité des fonctionnaires face à des problèmes, et aussi l'envoi des troupes sur des situations qui ne demanderaient pas l'envoi de troupes. Et donc, si tu veux, il y a des problèmes vraiment hiérarchiques qui sont importants et ils sont rarement incriminés, en fait. C'est ça le problème, c'est que dans les manifestations où les gens, en général, ils disent « Ouais, les policiers, c'est des cons et tout », mais non, parce que dans les bureaux, moi, par exemple, quand j'ai porté plainte, ce qui était d'ailleurs pas simple de porter plainte, hein, c'était la croix et la bannière de porter plainte contre un agent assermenté à Tours. Le mec à l'accueil savait pas comment faire, etc. Enfin bref, ça, c'est aussi un truc qu'il faudra dire au procès. Mais en tout cas, les gens que j'ai eu dans les bureaux, qui étaient dégradés, ils y tiennent à la déontologie de la police, ils y tiennent à l'éthique de la police, ils y tiennent à la question des gardiens de la paix. En fait, tu vois, on est nombreux à y tenir, en fait. Moi, j'aimerais qu'on puisse aborder la question pas sous la forme de la violence et de la haine, si tu veux, mais plutôt de la concertation.
Je note que tu dis gardiens de la paix et pas force de l'ordre.
Ah bah oui, bien sûr. Et aussi, on a besoin de gardiens de la paix. On est dans une société extrêmement complexe. On veut nous faire croire que la société, c'est l'économie puis le virus, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, tu peux pas avoir une solution boulevard sur des problèmes qui se posent, si tu veux. Et du coup, la police, elle doit apprendre cette complexité, elle doit aimer cette complexité, elle doit avoir des outils de dialogue, des outils de... Tu vois, par exemple, quand quelqu'un il est venu filmer là vers moi, le flic qui me brutalisait, il s'est lui, il dit ouais, je vais vous verbaliser, parce que le mec s'était arrêté en sens inverse avec sa bagnole pour venir à mon secours. Bah, sa réaction à lui, c'était verbaliser. Alors, il n'avait pas les outils de discussion, en fait, et de médiation qui permettaient de lui dire, bah, écoutez, oui, il y a un problème avec ce monsieur, il nous pose problème, bah, vous pouvez filmer si vous voulez. Enfin, tu vois, ça pourrait. Hein. Il perdrait aucune légitimité à le faire. Au contraire, il gagnerait quelque chose. Parce que je pense aussi que aujourd'hui, la société, elle a changé. Les profs, ils ne sont plus avec des règles à taper sur les lois des enfants, si tu veux. Ils sont aussi dans un truc de dialogue. Et les bons profs, les élèves, ils les aiment, les bons profs. Hein. Et c'est pas les profs qui les brutalisent, hein. C'est les profs qui arrivent à trouver la façon juste de leur parler et qui gagnent, du coup, justement, une légitimité de leur position.
Et ce que j'entends dans ton discours aussi, c'est voilà, enfin, il n'y a pas ce qu'on appelle connement du racisme anti-flic, ce qui est une expression débile d'ailleurs. Ce que tu dis aussi, c'est que le flic, c'est un travailleur, quoi. C'est un salarié. Enfin, c'est quelqu'un qui est pris entre nous, les gens, et sa hiérarchie.
Bah déjà,
et les ordres à la con qu'on lui donne.
Déjà, c'est nous, ses employeurs. Ouais. Déjà, première chose.
Oui, on rappelle, hein, c'est nous qui payons les salaires des fonctionnaires, notamment de police.
C'est vraiment ça. Ils sont à notre service. Ils sont au service des citoyens. Dans leur origine, ils ne sont pas au service du gouvernement. Ça s'est transformé avec la police nationale, parce que c'est Pétain qui a transformé les polices régionales, municipales, en police nationale. Et du coup, la police, à ce moment-là, est devenue sous l'ordre du gouvernement, alors qu'avant, elle était sous l'ordre des municipalités, en vérité. Du coup, ça change la différence, parce que du coup, ils sont assujettis à un pouvoir national. Ça change beaucoup de choses.
Le flic, c'est un travailleur, en fait. Hein.
Alors, non seulement c'est un travailleur, mais c'est un travail sacré. C'est un travail qui a potentiellement le droit et le devoir du rappel à l'ordre, de la connaissance de la loi, et qui est capable d'intervenir pour un rappel à la loi, par exemple. Tu vois, un rappel à la loi, par exemple, là, les policiers, quand ils m'ont croisé, ils m'ont fait un rappel à la loi. J'étais en dehors du feu, et ils avaient le droit de me dire, bah là, vous êtes un peu loin du feu.
Oui, mais ça peut se faire sans insulter les gens, quoi.
Ils l'ont fait sans insulter les gens au départ, mais ils ont pris ma réponse comme une provocation. Et donc, ça, je dois m'en excuser, parce que c'était pas une provocation. Pour moi, c'était drôle. Parce que tu vois, moi, j'étais arrêté au feu rouge, mais eux, ils passent au rouge et ils me reprochent le rouge, tu vois, du coup, c'était drôle. Sauf que si tu veux, la position justement de défiance qu'il y a entre la police et les citoyens font qu'eux, ils le prennent mal. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de penser que quelqu'un peut les aimer, en fait. Et ça, c'est grave. C'est archi grave.
Pourtant, on en a fait des manifs de droite où on scande « on aime la police, pas les artistes ».
Non mais
CRS tendresse.
Attends, les flics, ils rendent des services complètement hallucinants. Quand tu vois, moi, l'autre fois, j'étais dans la rue, il y avait un couple qui s'est engueulé très fortement. Un mec et une nana. La nana, elle avait peur du mec. Mais vraiment peur. Du coup, moi, je me suis arrêté pour être témoin du truc. J'étais proche. Du coup, le mec, il est venu et il a détourné sa violence contre moi. Il m'a foutu des gros pains dans la gueule. J'étais en vélo. Il m'a fait tomber de vélo. Moi, j'ai proposé à la nana de la raccompagner chez elle. Elle était en vélo aussi. Le mec, il nous a suivis. Il m'a foutu par terre. Il m'a tapé dessus et tout. Donc, du coup, on a arrêté des bagnoles pour qu'ils appellent les flics. Moi, j'avais pas de téléphone. Et donc, il y a des policiers qui sont arrivés. Et ben, heureusement que les mecs sont venus. Parce qu'on a pu arrêter le gars. Parce que moi, je savais pas comment m'en sortir. Et puis, la nana, elle est en état de choc. Et il y avait absolument besoin de la libérer de cette emprise, tu vois. Et donc, ben, les policiers, ils rendent des services énormes. Tout le temps. Dès que t'as un problème de quoi que ce soit, tu appelles les flics. Tu vois, faut pas l'oublier quand même, tu vois. Donc, en fait, eux, ils sont aussi en prise avec des situations rocambolesques en permanence qu'ils doivent juger, qu'ils doivent, tu vois, mesurer dans quelle mesure elle est dangereuse pour eux. Tu vois, par exemple, le flic, dans sa déposition, il dit ouais, le mec, il était en parlant de moi, il était excité, moi j'avais peur, tout ça. Ce qui est pas vrai, parce que moi j'étais justement à leur appeler au calme. Mais lui, il a pu dire ça. Et peut-être que effectivement, le gars, il a un gars qui lui fait une sorte de provocation et il a peur, il se dit ce mec, mais qu'est-ce qu'il me veut, tu vois. Bon, là, franchement, c'est exagéré parce que j'étais pas du tout dans cette situation-là et que le gars, il me faisait vraiment mal et tout ça. Mais quand même, c'est entendable que les gens, ils sont dans des positions où effectivement, il y a tout d'un coup un mec qui peut sortir à une bastos et puis leur rentrer dans la gueule. Donc c'est vrai, c'est un métier qui leur demande un sang-froid hallucinant, mais il faut qu'ils soient à la hauteur de leur métier. Des gens qui sont éducateurs, ils doivent drainer des gens qui ont des problèmes sociaux, des problèmes de violence, des jeunes qui peuvent péter un câble, qui sont agressions, qui font des agressions sexuelles, etc. Du coup, le boulot d'éducateur, c'est un boulot sacré. L'infirmier, c'est pareil. Tu vois, donc il y a plein de boulots comme ça qui ont des responsabilités humaines fortes. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui, les policiers, ils n'ont pas les outils pour le faire. Voilà.
Salut Pierrot.
Salut JBD.
Pierrot, vous connaissez sa voix, vous l'avez déjà entendu, hein, que ce soit en tant que militant Rouge et Noir, animateur de l'émission Rouge et Noir, demain le grand soir sur Radio Béton, tous les mercredis à 19h, et puis aussi travailleur social. Et ça fait plaisir de te voir, salut.
Ouais, bah moi aussi, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc voilà.
Dis donc, c'est drôle, hein, comme les histoires à suspense ont le don de rebondir. J'ai eu un petit moment de déprime, peut-être un petit peu comme tout le monde, à partir du non 1er mai 2020. Je me suis dit, bon, là, c'est mort, là, ça y est. À part des manifs de fenêtres et puis ouvrir sa gueule sur Facebook, je crois que ça va être compliqué. Bon, puis voilà, nous revoilà dans la rue masqués. Mais alors, j'ai été stupéfait la semaine dernière, là. Cette manif du samedi 28 novembre a été assez stupéfiante, parce que d'abord, on revient sur le pavé, bon, voilà. Mais on voit des gens qu'on ne voyait pas souvent, voire même qu'on n'avait jamais vu, et notamment des jeunes.
Beaucoup de jeunes, effectivement. C'était fantastique. Et c'est important, déjà, de pouvoir manifester, hein, parce que c'est quand même un droit, et de manifester contre cet état de plus en plus liberticide. La loi sécurité globale.
Une loi scélérate.
Ah, oui, absolument. Ouais.
Et alors, est-ce que ton analyse rejoint la mienne là, sur cette sociologie de manif qui est complètement bouleversée? Moi, j'ai l'impression que les cartes sont bien rebattues quand même. J'ai discuté la semaine dernière avec des gens qui n'avaient pas manifesté depuis 40 ans et qui s'étaient tapés 50 bornes pour venir manifester. Quoi.
Complètement. Là, on voit bien qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément du carré militant, on appelle ça. Il y a aussi pas mal de jeunes. Et ça, c'est, bien sûr que ça participe de donner de l'espoir. Hein.
Alors les jeunes, bon peut-être que les questions de retraite et des trucs comme ça, c'est très hypothétique, surtout qu'on leur apprend à l'école qu'ils en auront pas. Mais alors, il y a toujours une partie de la jeunesse qui a jamais supporté les trucs de racisme. Hein. Et j'ai l'impression que le tabassage de Michel, le producteur de musique, là, c'était vraiment une espèce de goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres et qui a fait sortir un paquet de gamins dans la rue. Hein.
C'est pas la première fois qu'on voit des jeunes dans la rue, hein, puisqu'il y a eu des manifestations antiracistes il y a pas très très longtemps. C'était avant le confinement de mémoire et on avait été surpris par le nombre de jeunes qu'il pouvait y avoir dans la manifestation. C'est bien parce que ça participe du fond. Quand il y a du fond, on peut espérer aussi en ce qu'on porte nous, c'est-à-dire changer ce monde, faire la révolution, il y en a ras-le-bol. Donc au moins il y a du fond. Après, ça serait bien qu'ils s'attaquent aussi à certaines formes, c'est-à-dire la remise en question des retraites, la loi liberticide là qu'ils sont en train de faire passer, la question de la sécurité sociale, parce qu'ils vont s'y attaquer, et la question du service public qui est attaquée tout le temps. temps. Et d'ailleurs, on est deuxième vague Covid. Il n'y a rien eu de changé en termes de moyens matériels et humains pour l'hôpital depuis la première vague. C'est parfaitement honteux. Donc il y a toutes les raisons de se battre sur plein de terrains, mais il y a un vrai problème sociétal.
Puis j'en reviens à notre petite histoire de France, mais quand on évoquait les lois scélérates tout à l'heure, les premiers ont été votés vers la fin du 19e siècle contre les vilains anarchistes. C'est pas complètement extrapolé de reparler de lois scélérates. Enfin, on pourrait aussi évoquer les décrets-loi d'Aladier d'ailleurs, hein, de 38-39. On est dans du connu finalement.
C'est vrai que souvent les gens associaient les lois scélérates contre les anarchistes aux attentats qu'il y a eu, mais c'est une petite parenthèse dans le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste était très impliqué dans le développement du mouvement syndical et de la CGT à l'époque notamment, et ça leur faisait peur à la bourgeoisie, parce que la CGT elle était révolutionnaire à l'époque. Hein. Abat la guerre, abat l'État, hein, c'était ça le slogan, avant la guerre 14. Hein. Malheureusement, après on s'est retrouvé avec un autre type de CGT, et le mouvement anarchiste a perdu un peu de son ascendant sur le mouvement ouvrier. On espère leur gagner, hein, tu vois, on se redéveloppe, l'Union communiste libertaire se développe, on a quand même bon espoir. En tout cas, on va serrer les poings, et on va serrer les coudes, et puis on va continuer à lutter, parce qu'il y a comme ça qu'on changera ce putain de monde.
Salut Sylvain.
Eh ben salut.
Sylvain, il est enseignant en lycée technique et professionnel, mais aussi militant politique et syndical. C'est NPA CGT Éducation, voilà, hein, c'est ça. Drôlement intéressante cette manif.
On a manifesté à des milliers. Un mélange d'un public militant, mais aussi très largement celles et ceux qu'on voit pas tout le temps dans les manifs.
Une partie voire même qu'on n'avait jamais vu.
Puis il y a plein de gens qu'on revoit. Il y en a pas mal qu'on a croisé sur les gilets jaunes, des choses comme ça. On revoit du monde. Il y a pas mal de choses qui s'additionnent. Et moi, je reste convaincu qu'on est dans une période où ce qui est un des moteurs, c'est l'addition. L'addition des colères quand il y avait le mouvement des gilets jaunes. Et aujourd'hui, l'addition de celles et ceux qui pensent qu'il y a quelque chose à dire sur plein de sujets.
Cette histoire de ratonnade là à Paris, a été un petit peu la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Hein. Mais peut-être que les gens seraient sortis sans ça.
Je pense qu'il y a des mondes qui seraient sortis parce qu'il y avait une attente sur l'idée qu'il fallait à un moment donné pouvoir dire quelque chose collectivement. Maintenant, je suis d'accord avec toi et en discutant avec pas mal de jeunes, il y en a beaucoup, c'est suite à avoir vu ce qui s'est passé dans les vidéos sur les réseaux sociaux, qui sont allés chercher voir s'il y avait une manif près de chez eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute cette partie de la manif qui vient, qui fait des banderoles, qui fait des pancartes, qui vient pour exprimer quelque chose, quoi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et en fait, cette manif, c'était pas particulièrement sous l'égide des syndicats, enfin c'est les gens, et c'est déclenché comment?
C'est l'addition de deux choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a surtout tout un tas d'associations militantes et de syndicats qui s'étaient regroupés et qui voulaient tenir une initiative à la rentrée, le Festilut, hein, dans la continuité de ce qu'on avait fait en décembre dernier, un repas avec la Confédération Paysanne en soutien aux luttes. Et bien ce collectif, il avait continué, il s'était donné un rendez-vous qui a été annulé avec le confinement, et des réunions ont continué quand même en visio comme on peut se réunir en ce moment. Et puis c'est emparé de ce sujet, et comme ça cherchait un moment où fallait faire quelque chose, c'est emparé de ça. Et puis l'intersyndical, certains de ces syndicats participant au Festilut, hein, s'est additionné avec, et ça fait une addition. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que tous les gens s'en emparent, et puis que plein de gens, ils ont envie d'exprimer des choses un peu festives aussi.
Alors là, il y a les jeunes, il y a la techno qui s'est déclenchée.
Voilà.
Et les gamins qui passent en dansant.
Ouais, mais parce que je pense qu'aussi que tout en faisant attention quand même les uns aux autres, les gens sont masqués et tout, il y a une envie aussi de se dire, il faut... on veut exprimer des choses en ce moment. Ouais. On est dans une période où il y a plein de choses qui sont amenées à nous surprendre.
On n'a pas eu de 1er mai 2020, mais peut-être qu'il va y avoir un très très long 1er mai qui s'ouvre devant nous, sait-on jamais.
Le rampant, c'est ça la formule, le mai rampant, à voir, on va voir.
On verra bien ce qu'on verra, et peut-être même que toi aussi tu le verras parce que tu y seras. C'est ici la fin de cette radio manif que tu peux réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com, et on se retrouve très vite sur cette même antenne, même lieu, même heure. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr.